dans la Bible, on dit Sgoula, c'est vraiment le peuple chéri du cœur de Dieu. Et je crois qu'en tant que chrétien, quand je vais vous parler du peuple d'Israël, je ne parle pas de politique là, je vais parler du peuple de Dieu. Que le Dieu je ne vais pas commencer à... je fais vraiment la séparation, même si c'est lié. Mais tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est par rapport à Israël que Dieu a choisi. Et je ne me situe pas au niveau politique. Au niveau politique, David vous l'a très bien dit, on peut ne pas être d'accord avec toute la politique d'Israël. Moi, je dis toujours... dans l'Ancien Testament, on voit bien Israël a été fidèle, Israël a été infidèle. Dieu est resté toujours fidèle à son peuple. Et encore aujourd'hui, Israël est fidèle, Israël est infidèle. Dieu demeure fidèle à son peuple. Et je crois qu'en tant que chrétien, et quand on découvre Jésus, eh bien, quelque part, on découvre le judaïsme et on découvre le peuple juif. Et j'étais frappée tout à l'heure en entrant dans l'église. Vous l'avez certainement tous remarqué, il y a une menorah devant la croix. La menorah, c'est le chandelier à 7 branches. Il y en a peut-être qui sont habitués à venir dans cette église, d'autres moins. Je ne sais pas si vous avez repéré. Et la menorah, c'est la présence de Dieu. C'est le symbole dans le judaïsme de la présence de Dieu, les 7 esprits de Dieu qui parcourent le monde et Dieu qui est présent partout. Alors je vais essayer de vous partager ce que j'avais, ça sera certainement pas ce que j'avais préparé, mais voilà, on avance et puis on va se laisser conduire par le Seigneur. Alors la première chose par laquelle je voulais commencer, c'est un petit peu étonnant, je ne sais pas si vous avez déjà regardé au moment de Noël, quand on lit le texte des bergers et le texte des mages. Moi, depuis il y a quelque temps, ça me posait vraiment question. Puis je me disais, mais pourquoi les bergers sont arrivés directement à la crèche et pourquoi les mages, ils ont dû passer par Jérusalem? Vous allez me dire, ma question, elle est idiote. Chacun a son chemin. Alors, je disais au Seigneur, Seigneur, il faut que tu m'éclaires, je ne comprends pas. Pourquoi les bergers ont pu aller directement? En plus, les mages, le fait qu'ils soient passés par Jérusalem, ça a déclenché le massacre des innocents. Donc, Seigneur, à quoi tu joues, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et puis en lisant les textes, vous irez les relire dans Luc au chapitre 2 et Matthieu au chapitre 2. En lisant les textes de près, j'ai dit, mais les mages, ils sont païens. Les mages, ils sont pas, ils n'appartiennent pas au peuple juif. Et pour aller adorer le roi des juifs, eh bien, il faut qu'on passe par l'écriture. Il faut qu'on passe par l'histoire que Dieu a fait avec son peuple depuis Abraham, l'élection. Et si on ne passe pas par là, eh bien, on ne comprend rien du tout. Et alors, j'ai compris que les mages, parce que l'étoile, juste après, on va quand même aller jeter un coup d'œil au texte, parce qu'on comprendra encore un petit peu mieux. Les mages, quand ils quittent Jérusalem, l'étoile réapparaît. Donc l'étoile, elle aurait pu aller directement à Bethléem. Elle n'avait pas besoin de passer par Jérusalem. Humainement, si on réfléchit, Dieu il aurait très bien pu faire que l'étoile les amène directement à Bethléem. Dieu n'a pas fait ça. Dieu les a conduits à Jérusalem. Et à Jérusalem, qui ils ont rencontré? Hérode. Mais pas que Hérode. Écoutez bien. Donc ils arrivent et ils disent, où est le roi des Juifs? Donc ils ne viennent pas adorer n'importe qui. Ils sont des païens et viennent adorer le roi des Juifs. Jésus est le roi des Juifs. Il est mort comme roi des Juifs. Et le maître que nous adorons, le sauveur que nous aimons, eh bien, c'est le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et nous sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et il s'enquérait auprès d'eux, donc près des scribes, il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. Donc c'est dans l'Écriture qu'on cherche où devait naître le Christ. Et dans l'Écriture, qu'est-ce qui est marqué? À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, ainsi en effet est-il écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. » Donc les mages devaient passer par Jérusalem pour recevoir l'Écriture. Et l'Écriture, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Premier Testament ou l'Ancien Testament. Et on ne peut pas aller adorer le roi des Juifs si on ne connaît pas l'élection du peuple d'Israël, si on ne connaît pas toute cette histoire que Dieu a fait avec son peuple. Sinon, on fait comme Paul dans les Actes des Apôtres au chapitre 17 à Athènes. À dire « Oui, vous êtes un peuple religieux, vous avez plein de statues, vous adorez plein de dieux, et en plus il y a une statue au dieu inconnu. » Eh bien, je vous annonce, cette statue au dieu inconnu, eh bien, et puis il continue, et Jésus est mort et ressuscité, et puis là ils disent « Oh, tu parles de la résurrection, tu repasseras une prochaine fois. » Et ils se sont moqués de lui, Actes au chapitre 17. Et ils se sont moqués de lui, parce que Paul a parlé directement, il est parti de la croyance des idoles du monde, il est arrivé à Jésus ressuscité, et il a oublié de parler de toute l'histoire que Dieu a faite pour préparer son peuple à recevoir le Messie d'Israël, le roi du peuple juif, au cœur d'une histoire, au cœur d'un peuple, un peuple élu, hein, David l'a aussi dit, un peuple élu, unique, mais pour être bénédiction pour l'humanité tout entière. Et si on passe pas par l'Ancien Testament, si on passe pas par cette histoire que Dieu a fait avec son peuple d'Israël, alors on comprend rien. Et si on se rend pas compte que Jésus est juif, David le disait avec humour tout à l'heure, hein, beaucoup de chrétiens pensent que Jésus était chrétien parce qu'il a été baptisé. Jésus est mort juif. Et il est juif. Et au ciel, il est juif. Et nous, dans Romains au chapitre 9 à 11, et notamment le chapitre 11, on a été greffés sur l'alliance que Dieu a faite avec le peuple juif. C'est pas une alliance avec les païens qu'il a faite. Il a fait une alliance avec le peuple juif. Et nous, païens, on est greffés sur cette alliance et on reçoit par Jésus mort et ressuscité toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple. Mais c'est d'abord au peuple juif. Et les promesses que nous avons aujourd'hui pour notre vie, elles sont d'abord pour le peuple juif. Ce n'est pas forcément des choses qu'on entend très souvent, puis c'est des choses parfois qui nous bousculent un peu dans notre façon de penser et de voir les choses. Mais si on lit l'Écriture, la Nouvelle Alliance, elle est pour Israël d'abord. Elle n'est pas d'abord pour nous les païens. Mais par grâce, cette alliance a été ouverte par la mort de Jésus et on a été greffés. J'en parlerai un tout petit peu après. On a été greffés sur cette alliance et on reçoit du coup hein, toutes les promesses et toutes les bénédictions de cette alliance. Alors, je vais reprendre un petit peu l'histoire qu'on connaît, mais qui me semble essentielle. Je voulais vous parler de l'élection, j'avais préparé quelque chose sur l'élection, je voulais centrer là-dessus. Cette nuit, j'ai pas eu le temps de refaire. Donc, je vais vous reprendre un petit peu l'histoire que vous connaissez certainement, l'histoire de l'Ancien Testament. Mais je crois que c'est important de repartir à la création. Parce que la création, elle est faite par séparation. C'est en séparant que Dieu crée. Il sépare le ciel et la terre, il sépare le sec, le mouillé, il sépare l'homme, la femme, il sépare. Séparer, ça ne veut pas dire division. D'accord ? Ça ne veut pas dire division. Division, c'est autre chose. Hein ? Il sépare. Et à un moment, hein, il va séparer un peuple, le peuple juif, il va séparer un peuple des autres peuples pour que ce peuple soit bénédiction pour tous les autres peuples. Et ce peuple-là aura une mission particulière, la mission d'être lumière des nations. C'est la mission d'Israël. Même s'ils ont été infidèles à leur mission, c'est leur mission. Et nous, on a cette mission parce qu'on est greffé sur Israël. Jésus nous donne cette même mission parce qu'on est greffé sur Israël. Alors, cette séparation se fait hein, par la création. Hein, j'y reviendrai à la fin, donc retenez cette notion-là, hein, donc la séparation. Et puis, Dieu va choisir un homme, Abraham. Il va choisir un homme et il va l'appeler « aller vers le pays ». Il y a des choses que je ne vais pas redire parce qu'ils reprennent ce que David a dit et ce n'est pas utile. Hein, vers le pays que Dieu montre à Abraham. Et puis Abraham y va, je passe Abraham, Isaac, Jacob. Hein, et cette descente en Égypte avec la vente de Joseph, le dernier frère, ce frère très embêtant. Parce que ce frère avait des visions, comme quoi tout le monde, un jour, toute la famille hein, se mettrait à plat ventre devant lui. Et alors, ce frère-là, on n'en veut plus. Donc, on le vend comme esclave, et puis il descend en Égypte. Et puis, grande famine, hein, le peuple est obligé de descendre en Égypte pour acheter du grain. Une toute petite chose dans la Bible, à chaque fois que vous voyez le verbe « descendre », c'est qu'on va vers le monde. Et quand on monte à Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Alors on monte à Jérusalem parce que ça a 800 mètres d'altitude, vrai. Mais on monte à Jérusalem parce que c'est la ville que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et à chaque fois qu'on descend dans la Bible, on descend vers le monde. Lot, quand il choisit sa part, il descend vers Sodome. Les 12 fils de Jacob, ils descendent en Égypte. On s'éloigne de la présence de Dieu. Il reste 400 ans en Égypte. Hein, Joseph se fait reconnaître à ses frères, etc. Je passe l'histoire. Vous connaissez certainement un petit peu votre Bible. Il reste 400 ans en Égypte. Et puis Pharaon ne se souvient plus de Joseph. Ils sont esclaves. Et au début du livre de l'Exode, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dieu a entendu le cri de son peuple. Et Dieu envoie un libérateur. C'est Moïse. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit Moïse qui a cette mission, mais il le fait d'abord avec ses propres forces. Il tue un Égyptien qui est en train de battre un Hébreu. Et c'est la mission que le Seigneur va lui donner, de libérer le peuple hébreu. Mais il le fait avec ses propres forces. Et quand il le fait avec ses propres forces, il est obligé de s'enfuir au désert. Et il va attendre 40 ans l'appel de Dieu, Dieu qui va lui révéler son nom et qui va lui donner la mission d'aller libérer le peuple d'Israël. À l'époque, c'est le peuple hébreu. Il s'appelle Hébreu. Moïse va voir Pharaon par 10 fois. Il y a une histoire très belle dans les midrashs de la tradition juive. Les midrashs, c'est toutes des petites histoires qui sont racontées dans la tradition juive pour expliquer l'écriture. Et moi, j'avoue, quand je lis ce genre de littérature, je me régale toujours et je vais vous en donner une ou deux. Celle-ci, c'est la dernière fois que Moïse va voir Pharaon. Et ils arrivent le jour de l'anniversaire de Pharaon. Et donc, il y a tous les grands de ce monde qui sont là en train de célébrer l'anniversaire de Pharaon. Et puis, Pharaon voit Moïse et puis dit, « Mais qu'est-ce que vous nous avez rapporté comme cadeau ?» Et Moïse, il dit, « Je t'ai rien rapporté comme cadeau, Pharaon, mais je te demande de libérer le peuple hébreu pour qu'il aille à 3 jours de marche pour célébrer son Dieu. » Pharaon se met en colère en disant, « Mais c'est mon anniversaire, tu ne me ramènes rien, etc. » Il dit, « Non, non, les Hébreux doivent partir célébrer le Dieu des Hébreux dans le désert. » Alors, Pharaon, il dit, le Dieu des Hébreux, c'est quoi ce Dieu-là ? En Égypte, il y a plein de dieux, mais le Dieu des Hébreux, je ne le connais pas. Alors, il demande à ses sages de venir, il appelle tous ses sages, et puis il dit, allez voir dans les bibliothèques, quel est ce Dieu des Hébreux ? Trouvez dans les encyclopédies des dieux, quel est le Dieu des Hébreux ? Donc, les sages vont, ils passent du temps à regarder dans les encyclopédies, etc., ils reviennent à Pharaon, ils disent « Pas de Dieu des Hébreux, ça n'existe pas. » Alors Pharaon va voir Moïse et Aaron, il dit « Désolé, mais le Dieu des Hébreux n'existe pas. » Et Pharaon répond « Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?» Ça vous dit quelque chose, non ?« Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?» Pardon ? Oui, Moïse répond ça à Pharaon. Pourquoi chercher parmi les morts ? Tous vos dieux sont morts. Toutes vos idoles, si vous avez encore des idoles aujourd'hui, ça ne vous conduit que dans un chemin de mort et un chemin de néant. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Tout le reste, ça nous conduit à la mort. Et vous savez, nos idoles, ça va très vite dans notre vie. Ça peut être mon ordinateur, ça peut être mon iPad, ça peut être n'importe quoi, ma télévision, ma voiture, mon mari, mes enfants. Ça va tellement vite de laisser autre chose que Dieu prendre la première place dans nos vies. Ça va tellement vite. Et puis, avec Moïse, donc ils vont partir, et là, il y a un élément essentiel pour nous, c'est la fête de la Pâque. Ils immolent un agneau, c'est Exode au chapitre 12, ils immolent un agneau parce que Dieu leur a demandé, un agneau sans tache, d'un an. Et on prend du sang de cet agneau, une fois qu'il est immolé, et on le met sur le montant et les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur n'entre pas dans la maison. Ça veut dire que s'il n'y avait pas ce sang, eh bien toute l'humanité méritait la mort. Tous les habitants d'Égypte méritaient la mort. Et seule la trace, le signe du sang empêche l'ange exterminateur d'entrer dans la maison. Parce qu'il y a ce sang, le sang de l'agneau. Ça nous dit quelque chose, non? Parce qu'il y a le sang de l'agneau. Alors l'ange exterminateur n'entre pas dans la maison. Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas marqués par ce sang de l'agneau? Et l'ange exterminateur ne peut pas nous atteindre parce que ce sang de l'agneau nous a marqués pour toujours. Et moi, je suis toujours frappée de ce symbole, enfin de ce signe, hein, qui est tellement fort, qui nous libère de la mort. On n'est plus fait pour la mort, on est fait pour la vie et pour la vie éternelle. Et tout ça, c'est grâce à tout ce que Dieu a fait avec son peuple et qui s'est accompli en plénitude en Jésus. Et tout ça, c'était d'abord pour le peuple juif. Tout ce que Dieu a fait avec ce peuple, c'était d'abord pour le peuple juif. Puis ils sortent d'Égypte, ils arrivent au Sinaï après 3 mois de marche. Et au Sinaï, Dieu leur donne les 10 paroles. Moi, j'aime beaucoup dire les 10 paroles au lieu de dire les 10 commandements. On a tellement l'habitude en français de dire les 10 commandements. Et en hébreu, ça se dit les 10 paroles. Parce que quand Dieu parle, c'est évident qu'on obéit. Quand on écoute en hébreu, ça veut dire qu'on obéit. Shema, c'est écouter et c'est aussi obéir. Quand on écoute Dieu, ça va ensemble avec l'obéissance en hébreu. Il n'y a pas de verbe obéir en hébreu. Quand on écoute, ça veut dire qu'on obéit. Et Dieu va dire à son peuple, écoute Israël, hein, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Et il va commencer en disant, je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui agit dans l'histoire. À l'inverse de tous les dieux qui étaient sur l'acropole d'Athènes, qui n'agissent pas dans l'histoire. Le Dieu en qui nous croyons, qu'on a reçu à travers Jésus et à travers l'histoire que Dieu a fait avec le peuple juif, c'est un Dieu qui intervient dans l'histoire. Il s'est révélé à Moïse, il a donné sa parole, il a conduit son peuple à travers les juges, les rois, les prophètes, etc., en Jésus, et il agit encore dans l'histoire aujourd'hui. Le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui agit dans l'histoire. Et tout ce que David vous a raconté sur l'histoire de Jérusalem, moi sincèrement, je crois que derrière, c'est Dieu qui conduit cette histoire. Et que le plan de Dieu va se réaliser, peu importe l'ONU, toutes les résolutions qui peuvent être votées, etc., on retarde peut-être un peu le plan de Dieu. On met un peu des bâtons dans les roues au plan de Dieu. Mais Dieu est plus fort que tous les bâtons dans les roues qu'on peut avoir. C'est que des bâtons dans les roues. Et on ne va pas s'arrêter parce qu'on a des bâtons dans les roues. Vous êtes bien d'accord? Le Seigneur est plus fort que tous les bâtons dans les roues. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Il fait une alliance. Et il dit à son peuple, tu es Sgoula, le premier mot que je vous ai dit tout à l'heure, tu es mon peuple chéri, celui que je porte sur mon cœur. Et le peuple d'Israël, il demeure comme ça, malgré toutes ses infidélités. Il est le peuple chéri de Dieu. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu il a un peuple chéri, eh bien ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas chéris. Parce que souvent on dit, oui, mais si Dieu il a élu ce peuple-là, bah, alors nous on est quoi? Ben, je vais vous dire, vous êtes tous aussi chéris de Dieu. Et ce n'est pas la peine d'avoir peur. J'entends des fois des chrétiens qui disent, ben alors si eux, ils sont chéris, nous, on est quoi? Et ben, je vais vous dire, vous êtes chéris aussi. Mais vous savez, quand on regarde un corps, j'étais frappée par ce que Carlos disait tout à l'heure, la jonction. Si on regarde un corps, il y a une main, il y a un bras, il y a les épaules, etc. Et on a tous, ce que mon pied fait, ma main ne le fait pas. Et ce que ma main fait, mon pied ne le fait pas. Heureusement que j'ai ma main et heureusement que j'ai mon pied. Eh bien, le peuple juif, je dirais, il a une place particulière dans le corps. Et puis après, il y a les païens qui ont d'autres places. Mais le peuple juif, il a une place particulière et il est utile au corps, même s'il ne le sait pas encore. Même si beaucoup de juifs ne savent pas encore qu'ils sont utiles au corps qu'est l'Église. Il y a des juifs messianiques qui le savent, mais il y a beaucoup de juifs qui ne le savent pas encore. Mais ce n'est pas grave ça. Dieu, il fait des choses avec nous, même si on ne sait pas encore tout. Et heureusement, heureusement. Alors, le peuple juif, il a une mission particulière. Mais tous les autres, les nations, ils ont aussi quelque chose de particulier à faire dans le plan de Dieu. Alors, après, ils entrent en terre promise, ils s'installent avec Josué. Ils s'installent, ils prennent donc le pays. Et là aussi, il y a quelque chose de fort, c'est qu'au moment où ils rentrent en terre promise, ils célèbrent la fête de Pâques. Et ils célèbrent la fête de Pâques au moment où la manne s'arrête et où ils vont pouvoir manger les fruits du pays. Et Jésus, quand il meurt, il nous dit, hein, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, et je ne mangerai plus de ce fruit du pays jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume. On est exactement dans la même chose. La vie de Jésus commence au Jourdain, la traversée du Jourdain, et elle finit à Pâques, où il nous promet de manger avec nous les fruits du royaume. Et avec Josué, c'est exactement ce qui se passe. Il traverse le Jourdain, il y a la Pâque, la manne s'arrête, et on mange les fruits du pays. Et avec Jésus, on mange les fruits du royaume. On a les arts sur cette terre jusqu'à ce qu'on mange les fruits du royaume quand on sera avec lui. Et puis, il va y avoir toute une histoire, il va y avoir les juges, et puis David. Alors là aussi, je pensais développer un petit peu, mais je vais être rapide parce que David vous en a bien parlé. David va prendre cette capitale parce que justement, elle appartient à aucune des tribus qui auraient pu s'enorgueillir. Quand même, David, il est chouette, il a pris une ville de chez moi, donc moi, je suis plus importante que les autres. Vous savez, dans le peuple juif, la jalousie, elle existe aussi, comme partout, comme chez les chrétiens. Ah ben lui, il a ce don-là, moi, je ne l'ai pas. Et lui, il fait ci, et moi, je... Le peuple juif, il est pareil, il a le même péché. Alors Dieu installe sa présence au lieu du temple, avec Salomon. Il descend avec sa gloire sur cette ville à Jérusalem. Cette pierre aussi dont David a parlé, moi ça me parle énormément cette pierre. Parce que la tradition juive dit que c'est là qu'Adam a été façonné. C'est l'endroit où le voile s'est déchiré quand Jésus est mort, puisque c'est à peu près l'endroit du Saint des Saints. Et peut-être que vous avez déjà réalisé, mais moi j'étais complètement émerveillée quand j'ai réalisé ça. Quand le voile s'est déchiré, il s'est déchiré du haut en bas. Or, si vous déchirez un voile, c'est beaucoup plus logique de le déchirer du bas parce qu'en haut, il y a les anneaux. Et donc, ça ne va pas déchirer à partir des anneaux. Et vous savez pourquoi il s'est déchiré du haut en bas? Parce que dans la tradition juive, quand un père perd son fils, il déchire son manteau du haut en bas. Et au moment où Jésus meurt, le père perd son fils. Et en perdant son fils et avec la douleur du père de son fils qui meurt à la croix, il ouvre son cœur pour tous les autres enfants. Et son cœur est ouvert et nous avons tous accès. Alors que jusqu'alors, il y avait le grand prêtre qui rentrait une fois par an en prononçant le nom de Dieu. Le père a été comme Abraham et Isaac, où le père a été au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Et le Père de Jésus a donné son Fils et la souffrance d'un Père qui donne son Fils. Et en vivant cette souffrance, son cœur s'est ouvert pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, on a tous accès à la présence du Père. Parce que le Père a donné son Fils. Et le Fils a dit oui à son Père. Et tout ça, c'est à Jérusalem. Alors, j'avance dans l'histoire, il y a les prophètes qui n'arrêtent pas de rappeler au peuple d'Israël d'être fidèles à Dieu. Et pour Israël, on voit bien que c'est impossible. Mais quand on regarde nos propres vies, est-ce qu'on est fidèle à Dieu jour après jour, instant après instant? Pas facile d'être fidèle à Dieu 24 heures sur 24. Et alors, il y a les prophètes qui viennent sans arrêt rappeler à Israël, reviens. Et pour nous, c'est la conversion du fils prodigue qui revient vers son père. Reviens. Et le cœur du père n'arrête pas de dire ça. Reviens. Je t'aime, reviens. Mon alliance avec moi, elle n'est pas brisée. Reviens. Toi, tu l'as peut-être brisée, mais de mon côté, elle n'est pas brisée. Reviens. Alors, l'histoire avance. Et puis Dieu dit, la seule solution, c'est que j'envoie mon fils. Et le fils descend, vient, quitte la gloire de son père, et quitte cette présence glorieuse. Il dit oui à son père. Et quand on regarde toute la vie de Jésus, ce n'est qu'un oui à la volonté de son père, du début jusqu'à la fin. Oui, père. Et j'aime beaucoup quand je suis à Jérusalem et que je guide à Jérusalem et qu'on fait un petit bout de chemin, et sur le mont des Oliviers, quand on va à Saint-Pierre en Galicante, où on a un escalier hein, du 1er siècle, et où on est, il y a peu de lieux où on peut dire c'est sûr, Jésus est passé par là. S'il y a des guides qui vous disent Jésus est passé là, vous pouvez vous dire où, il dit peut-être des bêtises. Parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on vous dise s'il est passé là ou s'il est passé là? Et à la limite, ça n'a aucune espèce d'importance, qu'il soit passé là ou qu'il soit passé là. Mais il y a un escalier qui date du 1er siècle et qui conduit du jardin de Gethsémani jusque la maison du grand prêtre. On peut penser que Jésus soit passé pas très loin lors du jeudi saint, hein, lors de son arrestation, au moment où il va vers le grand prêtre pour être jugé. Et quand je suis devant cet escalier, je vois toujours, j'ai pas mal prié à cet endroit-là, et je vois toujours Jésus dans mon cœur, Jésus qui dit à chaque marche, oui Père, oui Père, oui Père, oui Père. Et en fait, en allant à Jérusalem, je crois que notre cœur, c'est ça, c'est le Seigneur, il va vous conduire sur des choses où vous allez être étonnés. Vous n'allez pas vivre les choses comme vous pensez que vous allez les vivre. Ça va être autrement que ce que vous pensez, parce que c'est jamais comme on pense. Et puis, ben, avec Jésus, on peut dire « oui, Père, oui, Père ». Et ouvrir tout grand ses oreilles pour écouter tout ce que le Seigneur veut nous dire, parce qu'en général, c'est non plus pas ce qu'on pense qu'il va nous dire. On pense qu'il va nous parler de ça, et puis il nous parle de ça. Ça, c'est souvent Dieu. C'est souvent Dieu. Et quand on regarde Jésus, hein, donc Jésus qui quitte la gloire de son Père et qui vient descendre sur la terre pour sauver l'humanité tout entière, on voit hein, qu'il vient dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il vient d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Hein, il vient d'abord hein, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand on regarde tout le ministère public de Jésus, c'est, j'allais dire, presque exclusivement vis-à-vis des Juifs. Il y a quelques événements où on voit Jésus qui se tourne vers les païens, mais la plupart de son temps, c'est tourné vers le peuple juif. Et en creusant un peu la parole, j'ai vu dans Actes au chapitre 10, quand Pierre est appelé pour aller chez Corneille, regardez la difficulté que Pierre a pour aller chez Corneille. Et je me suis dit, si pour Pierre c'est si difficile d'aller chez Corneille, ça veut dire qu'il n'avait pas l'habitude d'aller chez les païens quand il était avec Jésus. Parce que s'il avait eu l'habitude d'aller régulièrement avec les païens, voire avec Jésus, d'aller visiter les païens, eh bien, merci. Eh bien, ça n'aurait pas été compliqué. Il n'y avait pas besoin de 3 visions, de 7 nappes. Il n'y avait pas besoin de serviteurs, etc. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Il suffisait que Dieu lui dise va à Césarée, tu vas voir Corneille. Là, il lui faut un tas de trucs. Et vous avez peut-être jamais fait attention parce que vous connaissez peut-être pas très très bien la tradition juive, mais Pierre, il est où pour prier? Il est sur le toit. Vous allez dire pas d'importance. Importance essentielle pour le judaïsme. Il est chez un corroyeur. Que fait un corroyeur? Il travaille la peau. La peau, il y a des charognes impures. On peut pas prier avec de la peau. On est en état d'impureté. Alors Pierre fait quoi? Il va sur le toit pour être en état de pureté. Donc il est bien juif jusqu'au bout des ongles. Parce que s'il avait prié en bas dans la maison, il était en état d'impureté, il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il va sur le toit pour être séparé des peaux. Et là-haut, Dieu il se moque un petit peu de lui, il dit « Regarde la nappe, il y a tous les animaux purs et impurs et tu vas manger de tout. » Pierre dit « Dieu, t'es fou, j'ai jamais mangé quelque chose d'impur et tu me demandes de manger des animaux impurs ?» Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui répond? « Ne dis pas souiller ce que moi j'ai purifié. » Et alors Pierre, là, il est en train d'être bousculé dans sa mentalité juive, où il y a une séparation très nette entre les juifs qui sont considérés purs et les païens qui sont impurs. Alors nous, on a beaucoup de mal avec ça parce qu'on a du mal à comprendre le pur et l'impur. Mais c'est au niveau légal. C'est pas nous qui sommes impurs dans le sens sale, etc. C'est au niveau légal. On est impur hein, par rapport au peuple juif. Et Pierre, il part parce qu'il y a les serviteurs de Corneille. Il arrive et boum, le Saint-Esprit dégringole. Il dit, mais mince alors, Dieu, il fait la même chose avec les païens qu'il a fait avec nous à la Pentecôte. Parce que peut-être que vous n'êtes jamais rendu compte, mais la Pentecôte, c'est que des Juifs qui reçoivent le Saint-Esprit. Ou presque. Et peut-être vous le savez, mais peut-être vous ne le savez pas, la Pentecôte, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête juive. Et tous les juifs montent à Jérusalem le jour de la Pentecôte pour remercier Dieu du don de la Torah. Et ce jour-là, cette Pentecôte-là, juste après la mort de Jésus, il y a dans un lieu qu'on appelle la chambre haute, bruit, feu, vent, plein de choses extraordinaires, et tous les juifs accourent. J'ai bien dit tous les juifs accourent. Et les juifs qui sont de toutes les contrées autour, parce que tous les juifs qui peuvent montent à Jérusalem, puisque c'est une fête de pèlerinage, pour la fête de la Pentecôte. Donc on monte à Jérusalem. Et ce jour-là, on dit 3000 conversions, des baptêmes, etc. C'est des juifs. Peut-être vous n'avez jamais réalisé ça, mais c'est des juifs. Donc très bien, les juifs entrent dans cette foi que Jésus est le Messie d'Israël. Très bien, formidable, formidable. Et les païens ? Eh bien les païens, c'est avec Pierre, avec Corneille. Acte 10, mais c'est à partir de là qu'il commence à avoir une ouverture avec les païens. Bon, il y a quelques prosélytes, il y a des discussions avec les exégètes, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a quelques prosélytes dans Acte 2, mais sinon c'est des juifs. Acte 10, ouverture. Acte 15, David en a parlé aussi, ouverture aux païens, mais Pierre doit aller s'expliquer de ce qu'il a fait dans Acte 10. Alors Pierre, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as été chez les païens ? Mais t'es fou ou quoi ? Des fois, il faudrait remettre la Bible en un petit peu en truc pour qu'on soit un peu plus choqué. C'est ça qu'on a dit à Pierre. T'es fou ou quoi ? T'as été chez les païens ? Mais on est séparés des païens. On n'a pas le droit de manger avec eux, on n'a pas le droit de rien faire avec eux. Moi, c'est une souffrance pour moi. Mes voisins ne viennent jamais boire un verre d'eau chez moi, ne viennent jamais manger chez moi. La fois dernière, j'avais acheté même des choses cachères. J'avais des verres en carton fermés dans un plastique pour qu'ils puissent boire et qu'ils voient bien que moi, je ne l'avais pas utilisé. Ils n'ont pas bu. C'est une souffrance, cette séparation. Et elle existe encore aujourd'hui. On a du mal à réaliser ça. C'est une vraie séparation. Et la séparation que Jésus a brisée sur la croix, elle est faite en Jésus, mais elle existe encore, parce que c'est fait en Christ, mais on la voit encore aujourd'hui. Et on la vit, on l'expérimente. Et moi, c'est mon quotidien, cette souffrance de la séparation. Et on la porte encore aujourd'hui. Mais Jésus est vainqueur, il l'a fait à la croix, et ça va s'accomplir. Et cette séparation, elle va tomber complètement. Elle est tombée, mais on va la voir s'accomplir. Comprenez, hein ? En Jésus, c'est fait. Et maintenant, on va la voir s'accomplir. Donc, on dit à Pierre, « Pierre, t'es complètement malade. » Et on appelle Jacques, etc. On discute, acte au chapitre 15, et on dit, « Bon, si Dieu a envoyé son Saint-Esprit, de toute façon, ça, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. » Donc, il a envoyé son Saint-Esprit sur les païens. Donc, il doit quand même bien vouloir quelque chose pour les païens. Sinon, Pierre, il se serait planté, mais le Saint-Esprit ne serait pas descendu. Or là, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils prient en langue, ils ceci, ils cela. Le Seigneur veut quelque chose pour les païens. Donc ouverture, hein, acte 15, ouverture. Jacques écrit une lettre en disant, ok, les païens peuvent entrer dans l'Alliance. Et la grosse question pour être dans l'Alliance pour le peuple juif, c'est il faut être circoncis le huitième jour. Alors les païens qui ne sont pas circoncis, ils entrent dans l'Alliance ou ils n'entrent pas dans l'Alliance ? Grave question. Les païens qui ne sont pas circoncis, est-ce qu'ils ont le droit d'entrer dans l'Alliance ? Ben, ils réfléchissent, les apôtres. Et ils font un espèce de concile. On appelle ça le premier concile de Jérusalem. Ils font un concile. Et puis ils disent, ben non, on ne va pas leur demander de passer par la circoncision. Parce que s'ils doivent passer par la circoncision, ils devront respecter tous les commandements. Et on sait bien qu'ils ne seront pas capables. Donc on va leur demander quatre choses. Vous irez voir dans Actes au chapitre 15, hein, les unions illégitimes, le sang, etc. Quatre choses. Et puis sinon, ils peuvent entrer dans l'Alliance. Du moment qu'ils croient en Jésus mort et ressuscité, qu'ils se fassent baptiser et qu'ils demandent pardon pour leurs péchés. C'est quelque chose qu'on connaît. Et à partir de ce moment-là, les païens commencent à entrer dans l'Alliance. Mais avant, non. Avant, c'était le peuple juif. Alors, le problème, c'est que l'histoire a avancé et les païens devenaient de plus en plus nombreux. puisque l'Église, les premiers apôtres et la première Église chrétienne, elle a évangélisé, elle s'est éloignée de Jérusalem parce qu'il y avait des martyrs, parce qu'il y avait la persécution, et la persécution a permis que l'Évangile parte au bout du monde. Hein, ils ont été persécutés à Jérusalem, sont partis en Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités du monde. Hein, c'est ce que Dieu avait promis dans Actes au chapitre 1. Vous serez mes témoins. Du coup, les païens entrent en grand nombre. Puis on dit, les juifs, vous croyez en Jésus, mais quand même soyez petits. Puis petit à petit, on va leur dire, écoutez, maintenant que vous êtes chrétiens, vous n'êtes plus juifs. Donc vous vous abandonnez tout ce qui est du judaïsme et vous devenez païens comme nous. Je le dis un peu crûment, mais c'est à peu près ça qu'on a fait. Et on a dit aux juifs qui deviennent chrétiens, vous arrêtez d'être juifs, vous êtes chrétiens désormais, vous n'êtes plus juifs. Puis depuis quelques années, on est en train de découvrir que les juifs, ils ont quelque chose de particulier, même les juifs qui croient en Jésus. Ils ont une façon de lire l'écriture qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Ils ont des choses à nous apporter parce qu'ils connaissent toute cette tradition qui a porté Jésus. Et quand on lit les évangiles, ça je pourrais vous en parler des heures, mais quand on lit l'évangile avec la tradition juive, on dit « Waouh, Jésus, les juifs jusqu'au bout des ongles ». Je vais vous donner juste un tout petit exemple. Vous savez, avec les impôts, quand Jésus dit, on vient lui poser la question, puis est-ce qu'il faut payer les impôts ? Jésus dit « Regardez la pièce de monnaie. Elle est à l'effigie de qui ?
De César.
Alors rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Pendant longtemps, je disais au Seigneur, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Je vais vous donner une petite histoire dans la tradition juive. Dans la tradition juive, on dit que chacun de nous, on est une pièce de monnaie frappée à l'effigie de Dieu. Donc quand Jésus dit à Pierre, hein, ou à ceux, plutôt à ceux qui viennent lui poser la question, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il est en train de leur dire « Ce qui est à César est du monde, il faut faire ce qu'il faut faire. Donc payez votre impôt, voilà. Mais vous, qui êtes une pièce de monnaie frappée à l'effigie de Dieu, vous, donnez-vous à Dieu, rendez à César ce qu'est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et en fait, vous êtes cette pièce de monnaie, chacun frappé à l'effigie de Dieu. Et Dieu, il n'a qu'une envie, c'est de vivre dans une intimité avec vous. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Donc, rendez-vous à Dieu, donnez-vous à Dieu. Mais quand on ne sait pas, on comprend que on comprend la moitié de la parole. Et donc, la tradition juive, même si on est chrétien aujourd'hui, la tradition juive du juif de la synagogue, qui n'a pas encore forcément rencontré Jésus, elle peut éclairer des tas de choses de notre façon de lire l'écriture. Elle peut éclairer des tas de choses. Alors je reviens à mon histoire de l'Église. Hein, de plus en plus de païens, et de plus en plus, on va dire au peuple juif, du calme, fais pas de bruit, arrête d'être juif, etc. Et puis je vais aller très très vite dans l'histoire, hein, il y a les pogroms, toutes les expulsions des juifs de par-ci et de par-là, hein, l'inquisition et j'en passe et des meilleurs, et où le peuple juif reste très marqué, et le point culminant c'est la Shoah. Et pour les juifs, la Shoah elle s'est passée dans une Europe chrétienne, et le peuple juif, quand il voit un chrétien, c'est le peuple qui a aussi participé à la Shoah. Même s'il y a des chrétiens qui ont fait des choses superbes pendant la guerre. Mais ça s'est fait dans une Europe chrétienne. Et un juif, pour avoir une amitié profonde avec un juif quand on est chrétien, il faut des mois, voire des années, voire plus, sans savoir s'il y a jamais, au fond du cœur du juif, toujours un peu de méfiance. Il y a un juif, quand il a vu Jean-Paul II arriver, c'est un vieux monsieur, et quand il a vu Jean-Paul II arriver en l'an 2000 au mur, il a dit « C'est la première fois que je vois une croix qui n'a pas la forme d'une épée. » Et quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré. C'est la première fois que je vois une croix qui n'a pas la forme d'une épée. Alors notre témoignage, quand on va là-bas, hein, et cet après-midi je vous donnerai tout à fait autre chose, mais notre témoignage, quand on va là-bas, c'est vraiment d'aimer ce peuple que Dieu a choisi, avec qui Dieu fait une histoire, malgré toutes ses infidélités. Mais on a tellement vite fait de voir les infidélités des autres, et parfois on oublie les nôtres. Regardez l'histoire de l'Église, et quand je mets l'Église, je mets avec un grand E, de nos églises. c'est pas toujours reluisant. Combien de fois on a été infidèle? Et moi, j'étais aussi très touchée par Jean-Paul II quand il est allé en Israël en 2000. Je crois que ça a été un événement assez important pour Israël. Et je vous dirai une toute petite chose après. Il a dit, si on veut que Dieu crée du neuf, il faut d'abord créer un espace où on demande pardon. Parce que quand on demande pardon, on crée cet espace où Dieu peut faire du neuf. Et je crois que notre attitude de chrétien en allant en Israël et quand on rencontre le peuple juif, c'est d'abord vraiment une attitude d'humilité. Vraiment une attitude d'humilité. Une attitude de... Oui, on est petit devant eux. On est petit devant eux. Et je crois que le Seigneur, il nous attend. Il nous attend.
C'est très important. C'est très important ce que Jean-Paul II a fait. Et c'est un pasteur qui le dit. Parce que ce qu'il a fait, il l'a fait pour tous les chrétiens. Les juifs, ils s'en foutent de savoir si vous êtes protestant, catholique, évangélique, ceci, cela. Ce qu'ils veulent voir, c'est si vous les aimez ou pas. Ça, c'est très important. Mais Jean-Paul II a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Et je crois que tu as vraiment raison de souligner ça. Et là, je le dis vraiment aux frères et sœurs protestants et évangéliques. N'ayez pas honte de marcher dans les pas de ce que ce pape a fait. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez tout, que vous devenez catholique et qu'on est dans la confusion. Mais il a été un instrument de Dieu pour un moment unique. Et je crois que, moi je le dis souvent à des frères protestants, je dis si vous refusez ça, vous résistez à Dieu. Et je crois que c'est important que tu soulignes cet événement. Moi j'avais un peu oublié, mais en t'entendant j'ai à cœur de venir aussi prophétiquement le dire, que ce que vous faites dans quelques semaines là-bas, vous le faites aussi sur les pas de gens qui vous ont précédé. Et je pense que voilà, on va pas, c'est pas Jean-Paul II a été un instrument entre les mains de Dieu, mais ce qu'il a fait, c'est important. Et ce que vous faites, c'est finalement de vous engouffrer aussi dans une brèche que nul autre que lui ne pouvait ouvrir, parce qu'il représentait, c'est pas lui en tant que tel, hein, même s'il a été canonisé. Et c'est très important. Et je pense qu'il faut saisir. Et puis, voilà, il faut que les catholiques aussi soient attentifs à ce que d'autres ont fait qui ne sont pas catholiques. Et je crois que, mais il faut. Dieu utilise, moi je vous l'ai rappelé ce matin avec Abraham, avec David, un certain nombre de filles. Dieu utilise des hommes et des femmes imparfaits, pécheurs, pas toujours fidèles, mais à travers lesquels son projet s'accomplit. Je voulais juste appuyer ça parce que je pense que tu as raison de le dire.
Je ne vais plus être très longue, mais je voudrais reprendre. Et c'est un frère protestant qui me l'a dit, et ça va dans le sens de ce que David vient de dire. Je suis proche d'un frère protestant qui habite dans la région de Lille, et quand il a vu Jean-Paul II faire ça, il m'a dit, on a fait énormément de choses ensemble, et il m'a dit, tu sais Agnès, quand j'ai vu Jean-Paul II mettre le mot dans le mur pour demander pardon, il dit, j'ai pas vu le responsable des catholiques demander pardon, il dit, j'ai vu le responsable des chrétiens et j'ai vu surtout l'église qui se regreffait sur Israël. Et en mettant sa main dans le mur, c'était l'église qui disait, on se regreffe sur Israël. Pendant des siècles, on s'était séparés d'Israël, hein, et on a cru qu'on pouvait faire sans eux. Et quand on fait sans eux, on perd nos forces. Quand on fait sans eux, on perd nos forces. Et je crois que tous ici, vous portez l'unité. Et si vous voulez vivre l'unité, si vous êtes sans Israël, vous ne pouvez rien faire. Et ça, moi, au plus j'avance et au plus je suis formelle là-dessus, vous voulez vivre l'unité, retrouvez vos racines. Si vous n'avez pas vos racines, vous n'aurez jamais l'unité. Si vous retrouvez vos racines, le Seigneur vous donnera l'unité. Retrouvez vos racines. Et la première division, elle est entre les Juifs et les païens. Et c'est là qu'il faut repartir. Et si vous repartez là, vous vivrez l'unité. Vous vivrez l'unité. Retrouvez vos racines. Et regreffez-vous sur Israël. C'est sérieux, hein ? C'est dans Romains au chapitre, et je vais terminer avec ce texte-là, chapitre 11. Je vais juste prendre le passage de l'Olivier, c'est à partir du verset 16. Or, si les prémices, c'est ma traduction, vous avez peut-être d'autres traductions, ça n'a pas d'importance. Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi. Et si la racine est sainte, les branches aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, sauvageon d'olivier, tu as été greffé parmi elles pour bénéficier avec elles de la sève de l'olivier, ne va pas te glorifier aux dépens des branches. Ou, si tu veux te glorifier, ce n'est pas toi qui portes la racine. Ce n'est pas vous qui portez la racine. C'est la racine qui te porte. Tu diras, on a coupé des branches pour que moi, je fusse greffée. Fort bien, elles ont été coupées pour leur incrédulité et c'est la foi qui te fait tenir. Ne t'enorgueillis pas, crains plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas davantage. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et envers toi, bonté pourvu que tu demeures en cette bonté. Autrement, tu serais retranché, toi aussi. Et eux, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Dieu est bien assez puissant pour les greffer à nouveau. Et en effet, si toi, tu as été retranché de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contre nature sur un olivier franc, combien plus eux, les branches naturelles, seront-ils greffés sur leur propre olivier ? Alors ça, cette image, elle est extraordinaire de Paul. Parce qu'il explique, il y a l'olivier. L'olivier franc, c'est le peuple juif. Et puis, il y a des branches. Hein. Alors, nous, dans nos traductions, c'est marqué « coupé hein. ». Mais en fait, si on regarde le mot grec, c'est elles sont encore attachées à l'arbre. Elles sont brisées, mais elles sont encore attachées à l'arbre. Dans la traduction grecque, c'est comme ça. Donc, elles sont... Et nous, on a été greffés. Et vous savez, quand on fait une greffe sur un arbre, on doit le blesser. Si on ne blesse pas l'arbre, il n'y a pas de greffe possible. Et en général, on blesse l'arbre en forme de croix. C'est quand même intéressant. Et dans cette greffe, nous, on a été greffés. On nous a mis, nous, les branches sauvages. Et vous savez quoi ? J'ai rencontré quelqu'un qui s'occupe des arbres, etc. Et il m'a... Parce que moi, je me disais, bah, Paul, il n'est pas bon pour s'occuper des arbres. Parce que d'habitude, on prend toujours un tronc sauvage et on met des bonnes branches pour avoir des bons fruits. Et puis... Paul, il prend l'inverse, donc il s'est complètement planté. Et on m'a dit, celui qui s'occupait des arbres, il m'a dit, l'olivier, c'est le seul arbre où on peut prendre un bon tronc et mettre des branches sauvages dessus. Et vous savez à quoi ça sert ? C'est un tire-jus. Ça oblige la sève à monter dans tout l'arbre pour que tout l'arbre porte du fruit. Donc nous, les chrétiens païens, on a été greffés sur Israël, pour obliger Israël à porter du fruit, l'Israël de Dieu, et l'Israël de Dieu, il sera accompli quand tous les Juifs auront rencontré Jésus. Et ce qui est en train de se passer avec les Juifs messianiques, c'est que le tout petit début de ce que Dieu fait, vous allez voir dans, je ne sais pas, ce sera dans 10 ans ou dans 50 ans, peut-être Jésus sera revenu avant, j'en sais rien, mais le Seigneur veut toucher son peuple, le peuple juif. Et un jour, le peuple juif se mettra à genoux devant Jésus, comme tous les païens de la terre, comme tous les musulmans. Parce que Jésus, c'est le seul Seigneur. Et il n'y en a pas d'autre. Et alors, on est greffé sur cet olivier pour que toute la sève d'Israël fasse porter du fruit à l'ensemble de l'arbre. Et un jour, on verra cet arbre qui sera pleinement uni parce qu'on aura retrouvé nos racines. Et on sera un sur cet arbre. Amen.